The bleeding hearts of the artists, they face death. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad brother's wall.
Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'aube des Titans. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Arrivés à Munich, ils vont directement chez Charlotte qui habite une grande bâtisse retirée de la ville. C'est une demeure du 19e siècle de 3 étages au fond d'un grand parc. Parce lorsqu'ils arrivent, ils sont tous épuisés et demandent à se reposer. Le mari d'Elisabeth, Fritz, est un homme de 50 ans, grand, fort, cheveux bruns, visage dur. Il a deux filles. L'aînée, Olga, est une jeune femme de 25 ans, grande, maigre, sèche, le visage sévère. L'autre fille, Anna, a 20 ans, est plus petite que sa sœur, mince, cheveux blonds, mi-longs, le regard doux. C'est elle qui doit se marier avec Frank. Fritz, le père, mène sa famille à la baguette, ses filles comme sa femme. Il n'a qu'un seul but dans sa vie, préserver ce qu'il a. Sa fille aînée, Olga, laide, nerveuse, porte toute son affection sur son père. Elle cherche à le seconder en tout et est devenue sa secrétaire. Elle n'aime ni sa mère ni sa sœur, trouve hypocrite et coquette. Anna tient compagnie à sa mère, mais elle aimerait pouvoir mieux s'exprimer. Les invités d'Elisabeth sont reposés une demi-journée dans leur chambre, chambre vaste et claire du deuxième étage. Puis sont descendus dans la salle à manger pour le dîner. Au père, les y attendaient avec ses filles debout au milieu de la pièce. Après les salutations, tous vont s'asseoir à table. Anna est très émue. Sa mère lui a parlé du projet de son père. Frank a été placé en face d'elle. Elle a des visages. Durant le repas, tous parlent de cette tuerie qu'ils ont assistée. Ils ne s'en sont pas remis. Elena dit :
S'entretuer entre Allemands de cette façon, mais nous ne sommes pas des bêtes.
Fritz lui dit :
Il paraît qu'il faut faire un tri. Il y a des bons et des mauvais Allemands.
Qu'est-ce qu'un bon Allemand ? Demande Frank.
Peut-être ni juif ni communiste,
dit Elisabeth.
Mais les sans n'étaient ni l'un ni l'autre,
dit Elena.
On a décidé de les supprimer, c'est qu'ils avaient une tare. Et puis, ils avaient un uniforme comme les SS. Et lorsque l'on a un uniforme, on sait ce que l'on risque,
dit Frank. Les jours passent. Elena avec Elisabeth visitent la ville et font quelques achats et vont dans les salons de thé. Anna, Frank, Karl et Olga, qui pour le séjour des amis n'aident pas son père, vont jouer au tennis. Et danser chez des amis.
Die kleinen Mädchen sind so
ne sait pas comment faire pour faire la cour à Anna. Il la trouve gentille et belle. Il aimerait pouvoir le lui dire, mais comment ? La nuit, dans sa chambre, avec Karl, il passe des heures à discuter. Et elle, m'aime-t-elle ? Ne te pose donc pas tant de questions. Tu oublies que le mariage est une idée de père. Tu ne risques rien. Anna attend, elle aussi, qui se déclare. Il y a une autre personne qui a le cœur qui bat lorsqu'elle le voit et qui déteste sa sœur, cette sœur si belle qu'elle est laide. Elle est en colère aussi contre son père. Pourquoi, père, n'a-t-il pas pensé à moi ? Il aurait bien pu me donner Franck. Ne suis-je point l'aîné ? Organise une grande soirée dans leur demeure, 500 invités, toute la haute société de Munich et des environs, car en plus d'être industriels, ils sont comptes. On a ouvert le salon, un orchestre dans le parc, des tables pour les amuse-gueux, les boissons.
Vite, allumez les bougies.
Anna a mis une robe magnifique du soir blanche et or, sa sœur Violette. Elle a voulu être le mieux possible, mais elle a beau faire, elle ne sait pas s'y prendre. Franck et Karl dansent avec les deux sœurs, chacun son tour. En dansant, Franck remarque qu'il y a beaucoup d'uniformes SS. Anna, j'aimerais vous parler seule. Vous savez sans nul doute pourquoi l'on m'a invité, j'aimerais avoir votre avis et vous dire le mien. À la fin de la soirée, nous irons dans le parc. Olga les regarde danser avec rage. Elle a envie de crier, de cogner. Pourquoi me préfère-t-il à cette bombiche ? Ce qu'elle ne sait pas vraiment, rendu compte, c'est qu'elle ne lui a jamais vraiment parlé, ni prouvé son affection. C'est le genre de personne qui vit un drame sans qu'on le sache. Par timidité, honte, elle n'ose rien dire, montrer de leurs sentiments, et se plaignent que les autres ne voient pas ce qu'elle souffre. Son regard devient crispé, ses gestes tendus, sa respiration sèche. Elle devient insupportable pour les autres. Durant la soirée, soirée, Fritz est accompagné toujours par la même personne, une belle femme de 30 ans, grande, mince, le regard langoureux avec de longs cheveux blonds, et est habillée d'une robe rose. Fritz semble hypnotisé par cette femme. Que les 20 invités sont presque tous partis au petit matin, Frank et Anna marchent dans le parc désert. Ce n'est pas encore le jour, il fait frais. Anna marche à côté de Frank, les bras dans le dos, et regarde devant elle. De ne pas avoir dormi, cela n'a en rien touché à la fraîcheur de son teint. Ils sont arrivés presque au fond du parc. Tout à coup, à un tournant, ils voient le père d'Anna et la femme avec qui il était durant la soirée, en train de s'embrasser. Ni le père ni la femme ne les voient. Surpris, Frank et Anna se sauvent en courant. Puis, Anna s'arrête et se met à pleurer. Frank lui met la main sur l'épaule. « C'est la maîtresse de mon père. Elle s'appelle Eva. Il ne se cache même plus pour se voir. À chaque fois qu'il peut, il l'invite. Ma mère le sait. Elle est très malheureuse et humiliée. Il est fou de cette femme et lui fait faire n'importe quoi. Ma mère n'a que moi. Rien n'a que moi. C'est par elle que je connais cette liaison. » J'aime ma mère. Je l'aime. Elle n'a que moi. Je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. Frank lui sourit. Votre mère doit être, malgré son malheur, heureuse de vous avoir. Vous êtes une charmante jeune fille. Vous êtes belle, douce et bonne. Il est impossible de ne pas pouvoir vous aimer. Il lui donne un baiser sur la joue. Si vous voulez bien, de mon affection, je ferai tout pour que vous soyez heureuse. Il lui prend la main. Vous le voulez bien? Oui, je le veux bien. Venez, il faut rentrer. Frank et Karl les quittent. La mère doit aller voir son banquier à Berlin et Karl doit rejoindre sa famille. Frank reste encore quelques jours et Elisabeth veut le retenir. Avant de partir, la mère lui demande où il en est avec ses relations avec Anna. Tout est bien, mère. Elle est charmante et douce, mais je ne veux pas vous risquer les choses.
C'est bien, mon fils, mon petit. Tu as raison, vous êtes jeune. Fritz est un homme d'action. Il veut toujours aller trop vite. Prenez votre temps.
Elle le quitte. Fritz invite à dîner un SS. C'est un homme grand, mince, brun, le visage osseux. Il a 25 ans et s'appelle Adolphe. Durant tout le repas, il n'a fait que de parler de l'ordre nouveau et de la puissance de l'Allemagne. Son départ, Fritz dit à sa femme
« Je suis obligé de l'inviter. C'est eux qui détiennent le pouvoir maintenant.
J'espère que nous ne le reverrons pas souvent.
Puis nous verrons. Mieux ça vaudra pour nous. »
Est maintenant considéré comme le fiancé d'Anna. Seule Olga est contre ce mariage. Elle dit qu'il n'est pas assez bien pour la famille. Adolphe est invité à prendre le café chez eux. Pendant qu'il prend son café, son regard rencontre celui d'Anna. Il la trouve délicieuse. Après le café, ils vont tous faire une promenade dans la campagne environnante de Munich. La voiture, conduite par un chauffeur, Adolphe s'est assis à côté d'Anna. Mais son regard si pur l'empêche de parler, et durant la promenade, il ne dit que des banalités. Le lendemain, ils sonnent chez eux. Ils demandent un entretien au père. Le père le reçoit dans son bureau. Il fait asseoir dans un fauteuil près d'une table basse. Et lui dans un autre.
Je vous écoute. Bien voilà, vous savez que les SS sont les enfants adorés du Führer et qu'une famille qui s'allie avec un d'eux fait un bon placement pour l'avenir. Je trouve que vous avez une fort belle famille de fort beaux enfants et que votre fille Anna est l'un des beaux exemples.
Il se lève d'un coup et se met au garde à vous.
J'aimerais avoir la permission de courtiser Anna.
Le père est surpris.
Elle aurait mieux aimé que ce fût Olga. C'est-à-dire que... Je suis un bon parti. Vous savez, un essai, c'est un bon parti. C'est-à-dire que j'aimerais réfléchir. Il faut que j'en parle à ma femme et à Anna. Je suis en mission de propagande anti-juive. Je serai de retour dans une semaine. Je vous donnerai ma réponse à votre retour. Pour ce qui est de moi, c'est d'accord.
Et il se quitte. fois qu'il est parti, le père va informer sa femme. Elle est dans sa chambre, assise devant sa coiffeuse. Elle se peigne, il s'approche d'elle. Il lui raconte l'entretien qu'il a eu. « Tu ne peux pas accepter ? Anna est presque fiancée à Franck, et Franck est le fils de ma meilleure amie. »«
On ne peut pas refuser une alliance pareille, surtout vu qui nous sommes. »«
Mais Anna aime Franck. » »«
Je vais aller parler à ma fille. Ne te fais pas de soucis. C'est une fille sérieuse, elle comprendra. »
Et il quitte sa femme. Sa fille au salon qui lit un livre. Il s'assoit à ses côtés.
Anna, j'ai à te parler.
Elle ferme le livre et regarde son père.
Je vous écoute, père.
Un jeune homme ce matin m'a demandé ta main.
Anna, le corps qui bat et pas.
Pense à Franck. Qu'avez-vous dit ?
Je lui ai dit que je t'en parlerai. Qu'en penses-tu ? Songes-tu à te marier ?
Oui, bien sûr, père, comme toutes les jeunes filles.
As-tu déjà songé à quelqu'un ?
Depuis quelque temps, oui. À celui que vous m'avez choisi et présenté.
Et si mon choix avait changé ?
Elle le regarde surprise. Je ne comprends pas, père.
La personne qui m'a demandé ta main n'est pas celui que tu penses. Ah.
Son corps bat très fort.
Oui, il est beaucoup mieux. C'est un bon parti.
Mais j'aime Franck.
Ne te mets pas dans tous tes états. Je ne t'ai pas encore dit qui c'est.
Alors, qui est-ce ?
C'est Adolphe.
Un SS ?
Mais s'allier avec une personne comme lui, c'est primordial.
J'aime Franck et ne veux me marier avec personne d'autre.
Écoute-moi bien, tu connais qui nous sommes et ce que nous avons été. Ceci est peut-être vital pour notre famille. Tu entendrais voir ce qui se passe autour de nous pour le comprendre. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour ta mère. Je sais que tu aimes Franck, mais à l'époque où nous vivons, le temps n'est pas l'amour. L'amour est chose superflue. Il suffit de peu de choses pour que notre vie puisse basculer dans l'horreur. Ne sois pas triste, le sacrifice que je te demande servira autant à toi qu'à nous. Réfléchis et donne-moi ta réponse. N'oublie pas une chose, c'est qu'en te mariant avec Franck, tu risques de le mettre lui aussi en danger. Si tu l'aimes, pense-y.
Elle est restée sans bouger, le visage pâle, le regard baissé. Le père se lève et sort de la pièce. Du bureau de son père et entre. Il est assis à son bureau. Lorsqu'il la voit, il s'lève et s'avance vers elle. Prends les mains.
J'accepte, père, mais je veux pas dire mon refus à Franck.
Le père l'embrasse sur le front.
C'est bien, ma fille. Tu vas partir de suite chez ta tante, le temps que je fasse partir Franck.
Deux heures plus tard, elle a fait ses valises et quittait la maison. Franck revient. Il avait passé la journée à faire du tennis. Fritz, dès qu'il le voit arriver, va à sa rencontre dans le hall d'entrée.
Si vous permettez, j'aimerais vous parler.
Franck le suit dans son bureau. Père se met à son bureau. Et fait asseoir Franck.
Ce que j'ai à vous dire est très déplaisant. Voilà mon jeune ami. Nous vivons une période de changement. Et si nous ne plions pas, nous serons tous broyés. Ma fille a été demandée en mariage par un SS. Un très pauvre garçon, plein d'avenir. Après avoir bien réfléchi, ma fille et moi.
Vous avez choisi le SS. Je comprends. Il faut que vous trouviez une marche.
Le père, furieux, se lève. Je ne vous permets pas.
Franck se lève.
Vous n'avez rien à m'interdire. Je veux revoir Ron. On est parti. Pour ne plus vous revoir.
C'est ce que nous verrons. Et Franck sort du bureau. Il monte à la chambre d'Ron.
Cherche dans la maison.
Frappe à la chambre de la mère d'Anne.
Entrez.
Il entre. Au lit, il s'approche.
M'excuse de vous déranger, mais votre mari...
Je sais.
Ne pouvez-vous pas intervenir?
Je ne peux pas faire autrement si je vous disais...
Oui, je sais, vous avez vos armes à vendre au nouveau maître.
Mais...
Et il se retourne et quitte la pièce. Va dans sa chambre. Fait ses bagages. Départ. Il n'est pas rentré chez lui. Le choc a été trop fort. Et puis... Peut-être qu'en restant à Munich, il reverra Anna. Alors il a pris une chambre d'hôtel et attend le corps gros. Les jours passent. Un jour, dans une rue de Munich, une femme très élégante le croise. Tiens, il me semble que je connais cette personne. Il se retourne et la regarde. Son déhanchement, ses jambes. Oh, j'y suis. C'est la maîtresse du père Anna. Comment s'appelle-t-elle déjà? Eva, oui, Eva. En un éclair, une pensée lui vient. Il court après la femme. la devance.
Mademoiselle,
elle s'arrête.
Oui, il me semble vous avoir déjà vu, ne serait-ce pas chez Fritz, à une de ses soirées.
Oh, oui, dit-elle avec le sourire. J'avais complètement oublié votre nom, mais votre allure ne peut pas s'oublier.
Merci, vous êtes Frank, le fiancé d'Anna.
Enchanté, oui, me semble vous avoir vu.
Je suis seul en ce moment et un peu déprimé. Amna et moi, ça ne va guère, c'est-à-dire que depuis que je vous ai vu,
elle est surprise. Vos histoires avec Anna ne me regardent pas.
Oui, bien sûr, mais je ne veux pas vous en parler. Parlons plutôt de nous.
Nous ?
Oui.
Elle le regarde et le trouve charmant. Un peu jeune, mais cela le changera de Fritz.
Si vous permettez, je vous invite à prendre un café.
Elle hésite un moment, sourit et dit
« Ma foi !»
Et il l'amène dans un café. Il s'assoit à une table et commande deux cafés.
Je me sens très seul en ce moment et très triste.
Racontez-moi ce qui vous est arrivé avec Anna.
Eh bien, c'est tout simple. Elle en a choisi un autre.
Elle hausse ses épaules. J'ai jamais aimé cette petite pimbèche.
C'est une bonne chose que vous ayez rompu. Elle ne vous aurait pas rendu heureux.
Elle la raccompagne. Elle habite dans un immeuble cossu, dans une rue résidentielle.
Avant de la quitter, il lui demande s'il peut la revoir.
Elle hausse ses épaules, le regarde de bas en haut.
Venez, demain, 21h.
Demain soir, à 21h, il sonne chez elle. avec un bouquet de roses. C'est elle qui ouvre la porte. Elle a donné congé au domestique. Elle porte un déshabillé de soie et de fourrure blanche. Elle prend les fleurs. Merci, mais il ne fallait pas. Le fait entrer et ferme la porte. Puis le mène à son salon. Fait asseoir sur un canapé. Poser les fleurs dans un vase et va s'asseoir à côté de lui. Et boire quelque chose? Non, merci. La soirée se passe à dire des choses sans grande importance. Il se sent gêné et ne sait comment sortir de ce mauvais pas. Elle, elle attend qu'il fasse quelque chose. Après une heure d'ennui, il se lève. Elle aussi. Se met en face de lui. Vous voulez partir déjà? Oui. Pourtant, j'aurais tant aimé savoir ce que c'est que cette bosse que vous avez à votre pantalon. Là. Elle lui met la main dessus, le bas ventre. Il est tout rouge. Venez. Elle le prend par la main et le mène dans sa chambre. Une chambre en meubles blancs. Elle est assise sur le lit à califourchon. Lui est debout et se penche vers elle. Il est en chemise, sans pantalon. Elle lui met sa cravate. Je ne suis pas du tout déçu par toi, tu sais. Avec un peu de technique, tu serais parfait. Termine de t'habiller et file. Reviens me voir demain soir. Les jours passent et ils se voient souvent. Malgré son cynisme, Eva s'attache à Franck et Franck à sa vengeance. Mais elle, elle continue à voir Fritz et lui à penser à Anna. Décide de passer quelque temps à Munich. Il prévient sa mère et prend un petit emploi de gratte-papier dans une banque. Anna revient. Elle se marie avec le SS.
Mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu afin d'unir dans le Saint-Sacrement du mariage cet homme et cette femme.
Ils se sont fréquentés en dehors de la ville. Franck l'a appris par le journal. Cela lui a fait beaucoup de mal. Il a juré de se venger. Comme il sait qu'Eva voit toujours le père, il décide d'éloigner Eva de Munich. Un soir, après avoir fait l'amour, ils sont tous deux allongés sur le lit. Il lui dit « J'en ai assez de Munich. J'aimerais changer d'air. Si nous quittions définitivement cette ville et allions vivre à Berlin, qu'en penses-tu ?»«
Je ne sais pas.
Si tu m'aimes, tu partiras avec moi.
Allez, rien ne te retient ici. Tu m'aimes ?»«
Oui, bien sûr.
Alors, partons.
Que ferons-nous là-bas ?»
À Berlin, ma mère a de l'argent et des relations. Nous habiterons un bel appartement, nous recevrons, ce sera formidable.
Alors, c'est oui ?
Je ne sais pas.
Je te donnerai la réponse demain.
Une fois seule, elle réfléchit et se dit que, ma foi, puisqu'il est riche et que lui au moins n'est pas marié et jeune, alors pourquoi pas ?
Oui.
Semaine plus tard, Frick se sonne à l'appartement d'Eva.
Pas de réponse et la plaque a disparu de la porte.
Sans demander des nouvelles à la concierge, il sonne. La porte s'ouvre. Une petite femme grosse à cheveux gris.
Oui.
Bonjour madame, est-ce que vous savez où est mademoiselle Eva ?
Mademoiselle Eva est partie il y a une semaine. Elle n'a pas laissé d'adresse, mais le monsieur qui l'accompagne a laissé sa carte de visite.
Elle va la chercher et la lui donne. Il lit Franck.
Adolphe est dans la chambre de sa femme. Elle est au lit, lui debout et habillée.
Reste au lit, ma chérie. Si vous saviez comme je vous aime et suis heureux.
Il l'embrasse sur le front et sort de la pièce.
Adolphe reçoit dans son bureau à Berlin, où il habite, dans un immeuble cossu avec sa femme. Il reçoit un officier de la Gestapo.
C'est un homme grand, sec, habillé d'un costume et un gris. Ils sont tous deux assis. Adolphe à son bureau. L'officier lui dit « Je suis vraiment navré de vous avoir appris ceci, mais il le fallait. Je vous en remercie. » Adolphe se lève. L'homme aussi. Sortent du bureau. Une fois qu'il a raccompagné l'homme, il va à la chambre de sa femme. Ouvre la porte. La sa coiffeuse en chemise de nuit. Il s'avance vers elle.
Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez juive ?
Elle se tourne toute tremblante.
Je ne suis pas juive.
Mais vous avez du sang juif.
Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?
Il parle en faisant de grands gestes.
Ma carrière est finie. Je suis déshonoré.
Et personne ne le sait.
Si, un officier de la Gestapo vient de me l'apprendre. Vous m'avez menti. Vous êtes comme vos congénères. Menteur, filou. Et dire que je vous ai fait un enfant. Que j'ai fait un enfant de Youpin. Moi, un SS. Et ceci par votre faute.
Elle a les larmes aux yeux.
Va venir vous chercher. Vous irez dans un camp. Et moi qui ai touché une juive, je risque d'être aussi arrêté. En tant qu'SS, j'ai le devoir de vous supprimer. Vous m'entendez ?
Elle ne bouge pas.
Cela l'exaspère.
Il la gifle.
Je suis votre femme.
Vous, ma femme. Une Youpin. Il la gifle. La gifle. Et tellement fortement qu'elle tombe à terre.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'aube des Titans, dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.